Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Et une première question, vous êtes là pour 14 minutes, une première question de Hubert Huertas.
Donc Nathalie Arthaud, ce soir sur Radio France Politique, c'est en fait le banc d'essai de l'extrême gauche en quelque sorte, puisque nous avons le plaisir de vous recevoir. Et qu'on va recevoir juste après vous Philippe Poutou. Alors, inévitable question, au nom de quelle différence essentielle présentez-vous chacun votre candidature ?
J'ai l'impression que ça vous embête.
Non, non, ce qui m'embête, c'est de poser toujours la même question parce qu'elle est inévitable.
Vous n'êtes pas obligé, non,
si,
parce que vous savez, les électeurs pourront juger simplement en nous écoutant, en lisant nos professions de foi, en nous entendant développer notre politique. Alors, la différence essentielle. Essentiel, c'est que moi, lutte ouvrière, nous nous réclamons du communisme. Voilà, de cet idéal d'une société sans exploitation, débarrassée de cette classe capitaliste qui se comporte finalement comme des nouveaux rois, qui ont un droit de vie ou de mort sur les entreprises, qui décident à la place de toute la société, de ce qui sera bon ou pas bon. Donc voilà, nous portons cet idéal-là, d'une société, débarrassée, de cette loi du profit, de la concurrence. Donc voilà, ça c'est lutte ouvrière. Et le NPA, ce n'est pas le cas, vous pourrez vérifier tout à l'heure si vous le voulez.
Le gène qui vous chagrine dans le NPA ?
Non, mais voilà, nous tenons à nos convictions, qu'est-ce que vous voulez ? C'est-à-dire que nous pensons que au-delà du capitalisme, il y a une autre façon d'organiser l'économie. Et la façon logique, rationnelle, de bon sens, nous semble être de gérer collectivement les grands moyens de production, c'est-à-dire les grandes banques, les grandes entreprises, celles du CAC 40, qui font quand même l'appui et le beau temps dans toute l'économie. Et voilà, et de les gérer collectivement en fonction des besoins de toute la population et pas comme cela se passe aujourd'hui où toutes ces entreprises-là doivent faire du profit pour une minorité, toujours plus. Profit que l'on retrouve ensuite, vous le savez, alors dilapidé parfois dans des caprices de riches, mais beaucoup aussi dans la spéculation. Donc voilà, cet immense gâchis, nous pensons qu'il faut le combattre. Et nous avons à opposer justement à cette organisation capitaliste de l'économie une organisation communiste, l'idée de mettre en commun les grands moyens de production. C'est... Voilà. Donc nous en revendiquons, c'est... nous pensons que c'est important. Et d'autant plus important qu'on est quand même dans une des faillites les plus graves de cette économie capitaliste, dans une des crises les plus graves.
Mais justement, au moment où il y a une des crises les plus graves de l'économie capitaliste, on aurait pu attendre de vous, en tout cas ceux qui veulent voter pour vous, attendre de vous que vous initiez. Parce que tout ce que vous venez de décrire, j'imagine, et on va le vérifier tout à l'heure, que Philippe Poutou peut le dire aussi. Lui aussi, il est pour que les banques soient nationalisées et soient au service de la puissance publique. L'électeur qui hésite entre vous et Philippe Poutou, ce soir il a la chance d'avoir les deux d'affilée. Dites-nous exactement pourquoi, parce que vous dites que vous êtes communiste, mais c'est un mot. Mélenchon est avec le Parti communiste aussi.
Oui, alors bon, si on mélange tout, c'est sûr qu'on peut plus rien comprendre.
Ah hein. Excusez-moi,
mais Jean-Luc Mélenchon se défend d'être classé à l'extrême gauche. Alors respectez un petit peu ce que lui-même dit.
Oui, mais il est avec
Jean-Luc
le Parti
Mélenchon,
communiste.
Il est soutenu par le Parti communiste. Mitterrand n'a pas été soutenu par le Parti communiste. Cela a-t-il transformé Mitterrand en grand militant communiste ? Dites-moi.
Ah non,
Je ne crois pas. Ça n'a jamais transformé Mitterrand en communiste. Et Jean-Luc Mélenchon ne considère pas que le capitalisme a fait son temps. Non, il pense que dans ce capitalisme, il faut partager la richesse autrement, mais que tout ça peut être finalement amélioré. C'est pas du tout les mêmes perspectives. Pas du tout. Nous avons cette perspective, bel et bien, de renverser cette économie capitaliste. Nous pensons que c'est des crises, crise sur crise, que c'est une société inégalitaire, une société injuste et complètement folle. Alors, on est dans une maison de fous avec cette économie capitaliste, on ne maîtrise rien. Et d'ailleurs, ceux qui dirigent, et ceux y compris qui seront élus demain, ne maîtriseront absolument rien, de la même façon que Sarkozy n'a rien maîtrisé et a obtempéré en réalité au marché financier.
Nathalie Arthaud, tout cela passe par la révolution.
Ah, moi, je crois que pour changer la société, oui, il faudra la révolution, c'est-à-dire
ça veut dire
une mobilisation. Vous savez, des révolutions concrètes, on en a vécu. Ici, à Paris, en 1871, c'était la Commune de Paris, avant la Révolution française, la Révolution russe. Oui, c'est des millions de femmes et d'hommes qui disent « ça suffit ». On en a marre de subir, on en a marre de trimer, d'être laissé pour compte, d'être écrasé. On veut reprendre notre sort en main. Voilà, c'est ça des révolutions.
Donc ça ne passe pas par cette élection présidentielle ?
L'élection présidentielle permet de s'exprimer. Et justement, elle permettra à tous ceux qui sont révoltés et qui ont envie de dire « eh bien nous, on ne se reconnaît pas dans cette économie capitaliste » de le dire en votant pour ma candidature. Tous ceux qui ont envie de lever ce drapeau de la révolution sociale, de la révolution sociale, de la révolution communiste, si vous voulez, eh bien pourront le dire, pourront l'affirmer. Pourquoi devraient-ils se taire ? Pourquoi eux n'auraient-ils donc pas droit à la parole ? Il y a un courant dans la société française qui considère que oui, avec les élections qu'on nous organise là, on ne peut pas changer notre sort. Vous savez, beaucoup de travailleurs sont conscients qu'après cette élection, les licenciements, ils vont continuer. Les fermetures d'entreprises vont continuer. Et que ce ne sont pas ces élections qui vont les aider à faire que leur salaire va augmenter ou que leurs pensions de retraite vont augmenter. Ça, il n'y a aucune illusion dans la grande majorité des travailleurs. Vous savez, donc de ce point de vue-là, nous ne sommes pas très originaux.
Je vais peut-être vous énerver un peu, Nathalie Arthaud, mais les gens qui suivent Mélenchon dans la rue et qui soulèvent des drapeaux aussi, beaucoup, ils ont peut-être l'impression de participer à un début de révolution, non ?
Alors, ils ont l'impression sans doute d'être nombreux dans une manifestation, mais je pense qu'ils sont quand même conscients que ce n'est pas la révolution. En tout cas, c'est une révolution acceptée par sur demande préfectorale.
Hein, révolution civique, d'ailleurs.
C'est une révolution. Non, ça n'a rien à voir, évidemment, avec une révolution. C'est une révolution citoyenne, effectivement. Là, Jean-Luc Mélenchon aime les mots, aime jouer avec les mots, c'est sûr. Il a des grandes envolées.
Et ça vous fait quoi quand vous voyez la place du Capitole, Noir du Monde,
mais
par exemple,
en même temps, il conduit tout le monde à exprimer cette révolution citoyenne dans les urnes, en votant pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous voyez, tout ça, ça circonscrit quand même très
vous
bien.
Vous aussi, vous cherchez à voir du monde dans les urnes. Vous cherchez des bulletins de vote, non ?
Oui, mais moi, je ne dis pas que c'est la révolution. Je fais la différence.
Vous savez, je dis d'ailleurs,
le fait d'aller voter, le fait de s'exprimer, ce n'est même pas encore une lutte. Non, la lutte, c'est autre chose.
Oui, mais
la lutte, c'est la mobilisation, c'est la grève, c'est de faire pression.
Si on comprend bien, vous êtes candidate à cette élection pour faire partager vos idées et les faire entendre. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon,
comme vous-même, d'ailleurs,
en s'alliant, non, moi je pose des questions, c'est pas pareil, en s'alliant avec le PC pour faire le front de gauche, fait beaucoup plus parler de vous qui êtes resté dans votre coin, aussi bien vous que le NPA ?
Oui, mais vous savez, moi, je pense que effectivement Jean-Luc Mélenchon rassemble, y compris suscite beaucoup d'espoir, d'enthousiasme, ça je le vois, y compris un certain nombre, justement, veulent exprimer leur méfiance vis-à-vis de Hollande. Bon, mais,
et ça vous fait du chaud du froid, ça, ou ça vous fait quelque chose ?
Ça, je pense que c'est une bonne chose. Mais vous comprenez, il s'agit de rejeter l'illusion Hollande pour tomber dans l'illusion Mélenchon. Et moi, je pense qu'avoir des illusions, c'est toujours une faiblesse. Et que, y compris dans la période actuelle, il faut que les travailleurs sachent qu'aucun gouvernement de gauche, y compris présidé par quelqu'un fort en gueule, aucun gouvernement de gauche ne les protégera de ce qui va se passer dans les mois à venir. Parce que ce qui va se passer, c'est ce qui se passe depuis 3 ans. C'est le fait que ce patronat va faire payer la crise aux travailleurs avec leur emploi, avec leur salaire, avec leur retraite, avec leurs conditions de travail. Ils vont aggraver les conditions d'exploitation. C'est ce qui se passe depuis 3 ans dans toutes les entreprises. Rien n'arrêtera cela parce que la crise, elle continue. Voilà. Et les gouvernements qui se sont succédés, de gauche ou de droite, vous savez, ils ont toujours laissé faire les patrons ce qu'ils voulaient. Et je crois que ça, c'est une grande leçon qu'il faut avoir. Donc, aucune illusion. Et il faut plutôt se préparer à se défendre par nos propres forces, par nos luttes collectives.
Aucune illusion, dites-vous. Donc, soyons totalement francs. Pour déclencher les luttes, quel serait le meilleur président, Sarkozy ou Hollande ?
Je crois que, vous savez, des luttes, on en a vu. Sous la gauche, on en a vu sous la droite, on en a vu sur absolument tous les gouvernements.
Quel serait le meilleur ferment ?
Ceux qui déclenchent les luttes sont les patrons, vous savez. Sont les patrons. C'est ce patronat cynique, rapace, qui n'en a jamais assez et qui, c'est lui qui fait déborder le vase. Quand ? Comment ? Moi, je ne peux pas vous le dire. Vous savez, aucun mouvement, y compris les commentateurs politiques à la veille de mai 68, expliquaient que la France s'ennuyait, s'endormait. Personne n'a vu venir mai 68. Donc, vous voyez, y compris les mouvements profonds sociaux de la société, ils surprennent. Des fois, ils surprennent même les révolutionnaires. Donc,
Quel serait le président le plus propice à, au déclenchement d'une lutte, d'une révolution telle que vous l'espérez?
Non, mais c'est une question
à laquelle personne ne peut répondre. Et vous savez, reprenez, y compris les pays les plus pauvres, les plus où la misère est la plus grande, où le désespoir est le plus grand, c'est y compris pas là qu'il y a des luttes. Et donc ces luttes, eh bien, qu'est-ce qui les déclenchera? Qu'est-ce qui... Moi, je ne sais pas. Ce dont je suis, par contre, certaine, et ce pourquoi moi je milite, c'est pour que ces luttes, elles aient une politique. C'est-à-dire que les travailleurs, les millions de travailleurs dans la rue, sachent pourquoi se battre, sachent quoi opposer justement à la politique patronale, à la politique du gouvernement, sachent qu'ils ne doivent pas quitter la rue et stopper leur pression tant qu'on n'a pas obtenu, eh bien moi je pense, l'interdiction des licenciements, l'indexation des salaires sur les prix, le contrôle aussi, le contrôle des travailleurs sur ce qui se passe dans les entreprises.
C'est un peu pour ça qu'on avait commencé cette interview sur ce thème-là, parce que si vous dites que les travailleurs doivent savoir pourquoi ils se battent, on est un petit peu étonné que vous vous présentiez en ordre dispersé, c'est tout.
Non, parce que vous savez... être unis dans les luttes, et nous sommes de toutes les luttes, de toutes les manifestations, de tous les combats, pour la régularisation des sans-papiers, pour contre la retraite, nous sommes de tous les combats, et on peut toujours compter sur les militants de lutte ouvrière pour se battre, ça c'est sûr. Et en même temps, dans ces luttes, il n'y a aucune raison qu'on s'aligne tous derrière une seule et même politique. Il y a des débats, il y a des discussions, il y a différentes options il y a des votes. On choisit telle ou telle politique. Donc, vous comprenez, être unis dans le combat et dans les luttes, ça ne veut pas dire qu'il y a une dictature politique et qu'on doit tous s'aligner. Au contraire. Et vous savez, dans toutes les révolutions, regardez y compris comment l'état d'esprit des gens, de la population a évolué. Regardez comment la Révolution française a démarré avec les Girondins et comment elle a fini avec Robespierre. Bon, eh bien écoutez, voilà, dans toutes les révolutions, vous savez, quand il y a des millions de femmes et d'hommes qui s'éveillent à la politique...
Et vous êtes plutôt Robespierre ou Danton,
moi plutôt Robespierre. Oui. Vous savez, quand les travailleurs s'éveillent à la politique, ils sont avides. Ils ont besoin de toutes les idées, de comparer, de discuter, etc. Et nous sommes pour, dans toutes les grèves, dans toutes les luttes. Voilà pourquoi, y compris les petites différences qui vous semblent pas, vous, évidentes, eh bien, elles ont le droit de s'exprimer.
C'est pas des querelles de chapelle. Donc, cette semaine, vous avez prononcé un discours à Sciences Po. Vous avez proposé de mettre les patrons qui ne respectent pas la parité dans leur entreprise en prison. Vous iriez jusque-là, vraiment?
Oui, alors je dirais que c'est même plus large que ça. C'est pas seulement ceux qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. C'est tous ceux qui piétinent la loi, qui violent les droits des travailleurs. J'ai été assez surprise de voir effectivement le tollé que j'ai déclenché. Parce qu'on a l'impression que dans cette société, dès qu'on parle des patrons, et qu'on parle de les contraindre, de les forcer, de les sanctionner, de les mettre devant les tribunaux, de les mettre en prison... C'est un gros mot, c'est complètement une hérésie.
C'est en prison pour ne pas respecter la parité.
C'est pas grave, peut-être, pour vous. Moi, ils violent la loi. Ils violent la loi. Et vous savez, c'est peut-être un vol sur les salaires de 100, 200 euros tous les mois. Ça s'appelle un voleur. Et un voleur, en plus, récidiviste. Voilà. De la même façon que j'appelle Total et ce qu'il a fait dans sa filiale AZF Grand Paroisse à Toulouse, un criminel. Et on peut que constater dans cette société que tous ces grands groupes, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Regardez l'Erika, ce scandale de l'Erika où on va nous dire que Total n'est pas responsable. Eh bien voilà, pour tous ces grands groupes, pour tous ces les banquiers aussi quand même, qui ont ruiné toute l'économie, pas un n'a été traîné devant les tribunaux. Pourtant, c'est bien eux qui sont responsables. Alors moi, voilà, je pense qu'au contraire, il faut les mettre sous contrôle, il faut les contraindre, les obliger, parce que sinon, ils ont un pouvoir absolu. Et nous sommes condamnés.
Il y aurait des paliers avant la prison ?
Oh, mais bien sûr, sans doute. Mais vous savez, moi, sur le fond... Mais moi, ça me choque quand même. Ça me choque. Ça me choque que, vous savez, il y a des jeunes qui sont en prison pour bien moins. Et que eux, ils peuvent voler comme ça. Ils peuvent ne pas payer des heures supplémentaires. Ils peuvent ne pas respecter la législation sociale. Eh bien, on les laisse faire.
Merci, moi, Nathalie Arthaud, merci. Tout de suite, à votre place, notre dernier invité, vous avez deviné, c'est Philippe Poutou. On va pouvoir comparer sur pièce. Merci et merci. À bientôt.
Radio France Politique. Le rendez-vous politique de Radio France. Thomas Legrand.